Bonjour à tous. Notre invitée de ce jour se nomme Gabrielle Nanchaine. Elle est surtout connue car elle compte parmi les premières femmes qui furent élues au Conseil national en 1971. Native d'Aigle, Gabrielle Nanchaine est titulaire d'un diplôme d'assistante sociale ainsi que d'une licence en sciences sociales. Mère de trois enfants, elle habite depuis de nombreuses années à Icogne, non loin de Crans-Montana. Malgré son statut de retraitée, elle est restée très active, notamment en prenant les chemins qui mènent à Compostelle et en écrivant un livre à ce sujet. Son parcours en politique et la route de Compostelle, tels sont les deux sujets principaux de cette interview qui a été réalisée au mois de mars 2018.
Ma première question, pourquoi et dans quelles conditions est-ce que vous avez décidé de vous lancer en politique ?
Disons que je n'ai pas vraiment décidé, c'est la vie qui a décidé pour moi. Tout mon chemin, c'est la vie qui a décidé pour moi. Il se trouve que les femmes en Suisse ont obtenu le droit de vote en 71 et qu'il y avait cette année-là des élections fédérales. Alors tous les partis, en Valais comme ailleurs, ont eu à cœur de mettre des femmes sur leur liste. Moi, j'étais déjà membre du Parti socialiste et mon parti... s'est adressé à moi parce que j'avais eu la chance de faire des études, que je savais un petit peu parler en public. Ils m'ont demandé d'être candidate, mais uniquement d'être candidate, parce qu'il n'était pas question que je sois élue à cause de mes deux enfants. Le dernier ne marchait pas encore.
Donc, vraiment, dans votre tête, c'était évident que vous n'accepteriez même pas au cas où ou...
Disons, j'envisageais même pas, l'éventualité d'être élue, donc la question ne s'est pas posée. Mais j'avais des idées à défendre, j'étais contente de faire cette campagne. Pour participer, disons, de façon solidaire à l'engagement des femmes et de mon parti. Et voilà, j'ai fait la campagne sans arrière-pensée, comme on pratique un sport.
Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris que vous étiez élue et quelles ont été les réactions de votre entourage ?
Le soir du résultat, j'ai suivi à la radio ou à la télé, je ne me rappelle plus les résultats, j'ai vu que j'avais fait un très bon score, que j'étais la deuxième. Le candidat Claude Rouillet, c'était ma certitude pendant la campagne, passait avant moi, mais je m'en sortais avec les honneurs de la guerre. Donc j'ai été me coucher à 10 heures à peu près. Et là, je me suis endormie. Mais vers 2 heures du matin, j'étais réveillée par des coups de klaxon, des portes qui s'ouvraient et se fermaient. Et mon mari est venu me secouer dans mon lit, je me suis rhabillée vite fait. Et c'était les copains d'Ayen, le village à côté, qui étaient très contents parce qu'on avait fait le décompte total. Il manquait les voix d'Ayen quand j'ai été me coucher. On avait fait le décompte des voix d'Ayen et j'avais quelques voix de plus que Claude Rouillet. Donc j'étais élue.
Et dans votre famille, soit votre mari, soit vos proches, est-ce qu'il y a quand même des gens qui vous ont dit « Attention, est-ce que vraiment vous allez réussir à vous en sortir avec ces deux enfants ?»
C'est moi qui avais du souci. C'était quasiment impossible. Icogne, à l'époque, était quand même à 3 heures de voyage de Berne. Aujourd'hui, avec le nouveau tunnel du Lötschberg, ça va beaucoup plus vite. Mais à l'époque, il fallait compter 3 heures. J'avais personne pour garder les enfants. Donc, c'était une tuile qui me tombait sur la tête. Et j'ai hésité à accepter mon élection. Et c'est mon mari qui a dit, il n'est pas question que tu répondes pas aux vœux de tes électeurs, on va se débrouiller.
Et avec le recul, ça s'est quand même bien passé avec vos enfants.
Grâce à mon mari qui a pris en charge avec sa maman la garde des enfants, le ménage et tout ça pendant les jours que je passais à Berne.
Lors de vos mandats, est-ce que vous avez dû faire face à certaines réactions négatives ou à des gens qui sous-entendaient que vous n'étiez pas vraiment à votre place, du fait que vous étiez une femme ?
Oui, il y a eu quelques petites jalousies. Ceux qui espéraient être élus, qui avaient été candidats 3 ou 4 fois et qui n'arrivaient pas à prendre leur place parce qu'il y avait celui qu'on appelait le vieux lion d'Elberg, Karl Delberg, qui était au Conseil national depuis 35 ans. Ces personnes-là n'étaient pas très, très contentes que je leur ai passé devant, ça c'est sûr.
Être une femme sous la coupole fédérale, est-ce que vous avez vécu ça comme un avantage ou un inconvénient ?
À l'époque, c'était un avantage. À l'époque, oui, parce que les journalistes étaient très intéressés par la présence des femmes et on bénéficiait d'une meilleure couverture médiatique que les hommes. En ce qui concerne le Valais, parce que moi, je n'ai pas été très appréciée par le rédacteur en chef du Nouvelliste de l'époque. Mais autrement, la télévision et les autres journaux relayaient tout ce que je faisais. C'était précieux, c'est précieux quand on est au Parlement.
Gabriel Nanchène, si vous le voulez bien, on va aller un petit peu plus loin dans le fil de votre existence. En 1977, alors que vous étiez toujours conseiller national, vous avez présenté votre candidature au Conseil d'État valaisan. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire ?
Ben pour aider mon parti à avancer, parce que parallèlement, il y a les élections au Grand Conseil. Et comme j'étais assez connu assez favorablement, je savais que c'était une aide pour mon parti.
On rappelle bien sûr qu'à l'époque, il n'y avait jamais eu de socialiste qui était rentré au Conseil d'État.
Voilà, il n'y avait jamais eu de socialiste, il n'y avait jamais eu de femme. Et là, c'était vraiment pas possible que j'arrive parce qu'on était deux candidats du district Sierre. L'autre était le PDC Antoine Zuffray, qui avait fait un travail très, très reconnu au Conseil d'État et qui allait être normalement réélu. Ce qui a été le cas, il a passé avant moi, mais moi, j'ai été élue avant le radical Arthur Binder. Et peut-être que si j'avais changé de domicile, si j'avais été dans le district d'à côté, c'est-à-dire à Aïa, j'aurais pu siéger. Mais je ne voulais pas le faire.
Alors, légalement, donc, ça aurait été possible de le faire après, juste après l'élection.
Ou de le faire entre les deux tours.
Entre les deux tours, ouais, ouais.
Oui. Mmh. Oui.
Donc, vous n'avez pas hésité à.
Donc là, je n'ai pas hésité, il n'en était pas question. Les gens sont étonnés qu'on puisse faire de la politique par militantisme ou par sport. Mais je crois que ça arrive à pas mal de gens. Hein.
Revenons-en au Conseil national. Après y avoir effectué deux mandats, vous avez décidé de ne pas vous porter candidate pour une troisième législature. Pour quelle raison ?
Parce que j'avais un troisième enfant et que c'était vraiment trop lourd. Hein. Je suis pas, j'ai pas une santé de fer, je suis pas une superwoman. Et donc, j'arrivais plus à faire face et j'ai fait le choix de rentrer à la maison.
Professionnellement, qu'est-ce que vous avez fait après ce retrait du...
Disons que j'ai fait beaucoup de petits boulots. C'était jusqu'en 83, je suis restée à la maison en me disant que pour mes enfants, c'était important. Quand mon petit dernier a eu 4-5 ans, en 83, je me suis présentée aux élections au Conseil des États. Et j'ai passé le premier tour, mais vous savez qu'il n'y a que deux élus valaisans. Et là, j'ai pas pu détrôner le PDC qui était sortant. Là, j'aurais bien aimé être élue parce que j'aimais beaucoup le travail du parlementaire. Et le Conseil des États, c'est une plus petite chambre. J'ai l'impression qu'on peut faire un travail plus efficace. Donc, j'aurais beaucoup souhaité être élue.
Ouais.
Et puis là, ça n'a pas marché. Donc là, j'ai compris que la politique, c'était fini et j'ai cherché du travail.
C'est ainsi que se clôt cette première partie d'interview. Gabriel Nanchène va maintenant nous raconter une merveilleuse aventure, celle de la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, qu'elle a commencé à arpenter au mois de mai 2001. Elle nous explique d'abord comment l'idée de cette marche lui est venue.
C'est quelque chose qui remontait assez haut, 8 ans auparavant. En fait, c'est en été 93 que quelque chose m'a attirée vers Compostelle. On était en vacances avec mon mari. C'était la première fois qu'on était sans nos enfants. Et on faisait du camping en Galice, vous savez, au nord-ouest de l'Espagne.
La région de
Compostelle,
de Saint-Jacques,
voilà. Et... Bon, ce jour-là, il faisait pas beau. Et puis, quand on est sous temps, c'est pas très drôle, les jours de mauvais temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On visite. On visite ce qu'il y a d'intéressant à visiter. Et là, comme on était assez près de Saint-Jacques-de-Compostelle, ben, on a été voir cette ville. Je connaissais de Compostelle ce qu'en disait le guide. Je m'étais jamais intéressée spécialement à cette basilique célèbre, ni au pèlerinage. Il faut dire que les pèlerinages, en tant que tels, j'aimais pas trop. Hein. Ces manifestations massives de piété, comme ça voulait rien dire pour moi. Donc, ce qui m'intéressait, c'était simplement du point de vue touristique. Et on est arrivé devant cette basilique, qui n'est pas une belle église romane ou gothique, comme on en voit beaucoup en France. Hein. C'est une église baroque, et c'est un style qui ne me plaisait pas trop. Je trouvais la façade un peu pompeuse. Et puis, il n'y avait rien qui m'émouvait vraiment. Alors, j'ai regardé ce qui se passait sur la place. Il y a une grande place devant la basilique de Compostelle où il y a plein de monde. Et là, j'ai vu tout à coup arriver un groupe de cyclistes, des jeunes garçons qui pouvaient avoir entre 20 et 25 ans, qui avaient l'air fatigués et qui étaient crottés jusqu'aux oreilles. Hein. Il pleuvait ce jour-là. Et là, en arrivant, j'ai vu une lumière s'allumer dans leurs yeux. Ils ont poussé des cris de joie, ils ont laissé tomber leur vélo. Certains se sont mis à genoux, puis ils ont embrassé les pavés mouillés. D'autres dansaient entre eux et chantaient. Et quelque chose me fascinait. Alors bien sûr, je me disais, ben voilà, ça c'est des pèlerins, ils l'ont fait. Depuis où est-ce qu'ils ont pédalé? Mais ce qui me fascinait le plus, c'était la joie que je voyais dans leurs yeux. Et j'ai entendu comme une petite voix qui m'a dit, toi aussi un jour, tu arriveras comme eux à Compostelle, mais tu le feras à pied. Donc j'ai laissé passer le temps parce que ça me faisait peur, hein, faire ça à pied, ça fait plus de 1000 km. Et puis je ne suis pas forte physiquement, et puis j'avais tellement peur de plein de choses que chaque fois je repoussais. J'ai repoussé. Et puis une année, on était de nouveau en vacances dans le coin. Là, quelque chose m'a dit, ben, c'est bon, l'année prochaine, tu pars.
Et puis, est-ce que ces peurs étaient un peu justifiées? Est-ce que vous avez eu des gros pépins durant le... Parce que vous êtes partie seule, hein,
pour préciser. Je suis partie seule, c'était important que j'aille seule.
Ouais, ouais.
Non, je n'ai pas eu de gros pépins, mais j'ai eu des peurs. Ben, j'avais peur au départ de ne pas avoir la force de marcher au jour le jour. Hein. Il faut faire quand même, pour trouver des gîtes ou des hôtels où dormir, il faut quand même faire 20 à 25 km. Et puis, j'avais peur de me tromper de chemin. J'avais peur des chiens, j'avais une grande peur des chiens, et on m'avait dit, il y a beaucoup de chiens sur ce chemin. Donc vraiment, c'était probablement une des choses qui m'effrayait le plus. Et puis j'avais peur d'être volée, qu'on vole mon portable. Mon mari venait de m'offrir un petit portable plutôt basique, mais pour pouvoir être liée au monde, qu'on me vole ma carte de crédit, mon porte-monnaie. Et puis surtout, j'avais peur d'être agressée. Parce que j'avais été agressée une fois à Berne, et puis c'est vraiment pas drôle quand on est une femme et qu'on sent que le type a des intentions. Donc voilà, j'avais peur de tout ça. J'avais très 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 peur, j'ai failli ne pas partir. Mais c'est ma belle-mère qui m'a donné un coup de pouce. Hein, on était tous réunis, j'avais décidé de partir au mois de mai, donc c'était autour de Pâques, toute la famille, et puis ma belle-mère a dit, donc tu vas partir à Compostelle. Je dis oui, je vais essayer, enfin, je ne sais pas si j'arriverai. Puis elle fait, ouais, c'est un joli projet, mais tous, tant qu'on est autour de cette table, on sait bien que tu n'arriveras jamais à Compostelle. C'était le mot de trop. Hein. On allait voir ce qu'on allait voir, et je suis partie.
Une fierté qui a du bon, des fois.
Tout à fait, oui.
Est-ce que vous pouvez nous citer l'un des moments les plus beaux que vous avez vécu durant cette marche?
Oui, peut-être. Alors oui, c'était... Le lendemain d'un jour difficile, j'étais dans un endroit où il n'y avait personne parce que j'avais décidé de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas suivre ce qu'on appelle le Camino Frances qui passe en pleine terre par Pamplune et Burgos et Léon et qui est le chemin que font les trois quarts ou les quatre cinquièmes des pèlerins. J'avais décidé de suivre la mer, la côte cantabrique. Et là, à l'époque, il n'y avait personne. Aujourd'hui, ce Camino Norte, il est assez fréquenté. Mais à l'époque, j'étais quasiment la seule. Pendant un mois, je n'avais rencontré personne. Et un jour, je me trouvais dans une forêt. En plus, je n'avais pas de carte. Il n'y avait à l'époque pas de carte au 25 millième dans cette région de l'Espagne. Et j'avais qu'un guide pas très précis en allemand qui expliquait avec des petites flèches et des schémas par où il fallait passer. Donc là, il fallait traverser une forêt pour se rendre à un monastère. Un monastère très ancien, pré-roman, situé quelque part dans la forêt. Et c'était marqué dans le guide, attention, cette forêt est difficile, c'est pas balisé du tout, il faut surtout pas se perdre, ayez une bonne boussole, et partez à deux, parce que voilà, on se perd. Mais j'étais seule, on s'invente pas de compagnon de route, et la boussole, je pouvais pas l'utiliser, parce qu'il pleuvait, et puis on peut pas faire le point quand on sait pas où est le nord, où est le sud, sur la carte. Enfin, si, j'aurais pu utiliser la boussole, mais il pleuvait tellement que je ne pouvais pas mettre la carte, l'eau abîmait le papier, le détrempait. Donc là, j'étais dans cette forêt, et j'arrive tout à coup à un moment, il y avait trois chemins qui partaient devant moi. Prendre à droite, à gauche, tout droit. C'était impossible de le savoir. Et il pleuvait de plus en plus fort, à tel point que les sentiers étaient cimentés. Parce que dans cette région d'Espagne, quand il pleut, ben ça peut vraiment faire des quantités énormes de pluie. Alors pour éviter que la terre soit emportée, c'était du ciment. Et il y avait de l'eau qui s'était accumulée, ça rentrait dans mes chaussures, par en haut, par les chevilles. Donc j'avais les pieds, ça faisait clap, clap à chaque pas. Et puis, J'avais froid, j'avais peur. Et là, je ne savais vraiment pas que faire. Et pas un endroit où m'abriter, pas un rocher, pas une baraque où me cacher, rien. Alors là, j'ai appelé intérieurement au secours. Et j'ai attendu. Et tout à coup, j'ai vu un jeune homme qui était en vêtements de sport et qui avait des baskets aux pieds et qui avait dû être surpris par la pluie et puis s'est dépêché de retourner vers sa voiture. Alors j'ai juste eu le temps de lui demander où était le chemin de Compostelle. Il m'a dit tout droit, c'est encore 2 heures de marche et c'est bon. Donc là, voilà, c'est comme un ange qui m'est apparu, ce garçon en training. Il n'avait pas des grandes ailes, mais il est apparu juste au bon moment et puis il a disparu dans le brouillard. Voilà, et je suis arrivée plus tard, fatiguée, transie de froid, je suis arrivée devant la porte du monastère. Et là, j'ai été reçue comme une princesse, on m'a donné une chambre magnifique, les moines m'ont apporté à manger. Et j'avais une chambre avec salle de bain, c'était le luxe. Le lendemain matin, j'hésite à ouvrir les rideaux, j'avais peur que ce soit de nouveau la pluie et l'angoisse du chemin. Maintenant, il faisait grand beau, mais il y avait de la brume. Et j'ai commencé à marcher sur le chemin et je montais. Au fur et à mesure que je montais dans la forêt, la brume s'éclaircissait et le soleil commençait à poindre. J'entendais les oiseaux, cette lumière à travers les sapins. Et c'était tellement beau que j'ai senti comme mon cœur qui s'envolait, une espèce de légèreté, quelque chose de... C'est plus que de la joie, c'est indicible. Et je me sentais oiseau et j'aurais pu... Partir avec ces oiseaux, avec ces insectes qui bourdonnaient à mes oreilles, c'était d'une beauté magique.
Gabriel Lanchaine, vous parlez de cette aventure dans le livre intitulé « Compostelle de la Reconquista à la Réconciliation ». Quelle est cette réconciliation que vous appelez de vos voeux ?
Elle est double, la réconciliation. C'est d'abord la réconciliation avec soi-même. Quand on marche vers Compostelle, on pense qu'on marche vers peut-être le tombeau de l'apôtre Jacques, ou qu'on marche vers un lieu de pèlerinage où des milliers, des centaines de milliers de personnes ont marché avant vous. Mais en réalité, on marche vers soi-même. Une marche au long cours, c'est vraiment une marche pour essayer de trouver son identité vraie. Et quand on marche, surtout quand on marche seul, on est bien obligé de s'apprivoiser au fil des jours, d'oser affronter ses peurs, ces rognes, on a plein de cadavres cachés dans nos armoires secrètes, ces sentiments de culpabilité, toutes ces choses qui vous encombrent, qui sont comme des scories. Et dans les moments de solitude, on peut se laisser à pleurer. Et avec les larmes, il y a tout qui disparaît. Puis après, il y a comme un sentiment de légèreté énorme qui fait que vous êtes en paix avec vous-même. Vous êtes heureux avec vous-même, vous vous prenez comme vous êtes, avec vos forces et avec vos fragilités. Et puis vous êtes capable d'aller vers les autres et puis de les prendre comme ils sont. Et alors c'est la réconciliation avec l'autre.
Et cet autre dont vous parlez, de qui s'agit-il ?
Ça a été surprenant en fait. L'autre pour moi, ça a été le musulman. Parce que j'ai découvert en faisant ce chemin que Saint Jacques, c'était pas seulement l'apôtre de Jésus. Un messager de paix, d'amour et de fraternité. Saint Jacques, en Espagne, pendant 6 siècles, ça a été le tueur de musulmans. El Matamoros, Santiago Matamoros. Matar, en espagnol, ça veut dire tuer. Et Moros, c'est le nom qu'on employait pour désigner les musulmans. Il faut savoir qu'à l'époque où a commencé le pèlerinage de Compostelle, avait lieu une longue guerre de reconquête des souverains des souverains catholiques ibériques contre le souverain musulman qui occupait l'Espagne à l'époque. Et ils avaient besoin, ces rois catholiques avaient besoin d'un porte-drapeau pour leur guerre sainte. Et ils ont trouvé que Saint-Jacques était très bien tombé. Certains bruits laissaient entendre que l'apôtre Jacques, après son martyre à Jérusalem, peut-être que son corps aurait été transporté en Espagne, c'était une légende, mais ça arrangeait bien tout le monde, parce que comme ça permettait d'avoir un saint patron de l'Espagne et de ses armées.
Et dans les faits, Saint-Jacques n'a pas tué c'était pas un guerrier.
Absolument
c'est
pas.
La question.
C'était un apôtre de Jésus. Ça a été le premier qui a été martyrisé à la suite du Christ. Hein, c'est un homme très proche de Jésus qui a assisté à beaucoup de miracles, à la résurrection de la fille de Jaïr, à plein de choses, quoi. Donc c'était un homme vraiment de paix et d'amour. Et il est devenu vraiment le matamor. La plupart des statues qu'on voit en Espagne, ce n'est pas celle d'un homme, d'un apôtre dans sa longue robe avec peut-être un livre dans les mains et éventuellement un bâton. C'est un guerrier sur un cheval qui est armé d'une épée et qui a tranché la tête de pauvres bougres qui ont le teint basané puis qui ont un turban dans les cheveux. Donc on les reconnaît bien. Et ça, moi ça m'a scandalisée. Que, pas tellement que l'histoire soit ce qu'elle soit, hein, parce que les humains sont ce qu'ils sont et puis ils ont besoin de mythes et de légendes et ils emploient n'importe quoi. Ce qui m'a un peu choquée, c'est qu'on ne le dise pas aux pèlerins. Qu'on cache au fond, en tout cas dans les pays francophones, on ignore le fait que cette ambivalence par rapport à l'apôtre Jacques. Et j'avais envie de le raconter. Et puis de dire, ok, l'histoire est ce qu'elle est, on ne va pas revenir en arrière. Mais ce qui est important, c'est que maintenant, on fasse un virage à 180 degrés. Et que de ce chemin qui a été un chemin de guerre, on fasse un chemin de paix et de réconciliation avec ceux qui, aujourd'hui, sont les plus rejetés de nos sociétés.
Est-ce que vous pouvez nous parler de l'association que vous avez créée lors de cette marche ?
Oui, alors avec des amis pèlerins, il y avait un pèlerin de Jérusalem, juif, il y avait un pèlerin de la Mecque, musulman, et puis on était deux ou trois pèlerins de Compostelle. On a créé une association qui s'appelle Compostelle Cordoue et qui a pour but de marcher vers l'autre, avec la tête, le cœur et les jambes. On marche physiquement, mais il y a aussi une découverte de l'autre dans une compréhension de ce qu'il est, de sa culture, et puis aussi une ouverture par le cœur, une fraternité avec l'autre.
On arrive gentiment au bout de cette interview en vous remerciant d'avance. Dernière question, est-ce que vous avez peut-être un regret particulier par rapport à votre vie ? Est-ce qu'il y avait quelque chose à refaire ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dit, où vous dites, ah là, j'aurais dû faire comme ceci, sans me dire forcément de quoi il s'agit ?
Écoutez, ma vie est chemin, donc j'ai appris à suivre le chemin. Parfois, on se trompe de chemin, ou on veut ignorer une flèche parce que ça paraît vraiment trop difficile. Et puis, on se rend compte au bout d'un moment qu'on s'est trompé, puis qu'on est malheureux hein, sur ce chemin, et puis qu'on ne va pas atteindre son but. Donc, on revient sur son chemin, et puis quand on suit le chemin, il y a des moments où c'est difficile, et puis il y a des moments de joie. Et ces moments de joie nous donnent la force de traverser les caps plus difficiles. Je ne cache pas qu'il y a eu des moments difficiles, mais je ne suis pas sûre que le but de la vie soit vraiment d'aplanir toutes les difficultés. Il faut les traverser. Et puis la joie qu'on rencontre quand on a eu le courage de traverser une épreuve, cette joie-là est quelque chose de magnifique qui nous fait peut-être anticiper une joie plus grande.
Alors un grand merci pour cette interview et tout bon pour la suite.
Merci à vous aussi.
C'est donc sur ces propos que se termine cette interview. En guise de conclusion, je voudrais féliciter Gabriel Nanchen pour son courage et son opiniâtreté qui lui ont permis d'une part de se battre pour maintes causes sociales et d'autre part de parcourir à pied pas moins de 1600 km sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un grand merci à toutes nos auditrices et auditeurs et à bientôt.